Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Bonjour Alexandra Roulet.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue plus près du micro Alexandra. Bienvenue, c'est une première pour Alexandra, professeure à l'INSEAD, membre du Conseil d'analyse économique et prix du meilleur jeune économiste 2024, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes, c'est ça, hein. Avec nous Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Robin Rivaton, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Stonal, vous êtes également fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapol et vous avez publié « Sourions, nous sommes filmés » aux éditions Alpha. Vous étiez à Aix, Robin Rivaton, on s'y est croisé. Les patrons sont inquiets, ils ont peur de la fin de 10 ans de politique de l'offre. Ont-ils raison, d'après vous ?
En tout cas, 10 ans de politique de l'offre suivie, c'est l'une des rares politiques publiques qui a été suivie de manière continue dans ce pays, qui a débuté en 2014 à l'initiative de Manuel Valls, Emmanuel Macron, et suivie par François Hollande, et puis reprise ensuite par Emmanuel Macron sous ces deux quinquennats. Donc c'est une politique qui a fonctionné, au sens où aujourd'hui, elle a quand même permis de créer plus d'emplois en France et de sortir de ce chômage de masse. Il y a des vraies craintes qu'on puisse revenir dessus. Moi, ce que je vois chez les patrons, il y a deux écoles. Il y a les patrons des grands groupes qui, eux, c'est un peu business as usual. Ça continue de faire des opérations. Il n'y a personne qui a vraiment levé le stylo. Et la bourse en est aussi le reflet. Hein. On n'a pas eu de dévissage massif. Et puis, il y a les patrons propriétaires de leur entreprise, les entreprises familiales, les ETI, les petits ou grands patrons, qui, eux, voient bien que monte une musique en faveur, non pas seulement de la question de la politique de l'offre, mais de la taxation des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines dans ce pays. Et qui voit bien, ça va relier à notre autre sujet, que pour sortir de la nasse des finances publiques, qui sont dans un état catastrophique quand même, faut-il le rappeler, on voit bien qu'on a envie, on a très envie de mettre à contribution les plus aisés. Et donc je dirais qu'il y a deux écoles. D'un côté, il y a les grands groupes, où ça continue, et de l'autre côté...
Ce sont des mandataires sociaux, il faut rappeler d'ailleurs pour la...
Voilà, qui peuvent partir, qui sont relativement mobiles. Et puis il y a les gens dont une partie du patrimoine est liée à l'outil de production sur le territoire national et qui voient bien qu'eux, ils essayent, en tout cas, moi j'ai plusieurs échos de personnes qui essayent de déplacer, alors on ne déplace pas des outils de production, mais qui essayent de déplacer du patrimoine hors de France.
Et effectivement, bon, on imagine que même s'il y avait des mesures NFP, elles seront jamais toutes dans un programme de coalition. Mais s'il y en avait certaines, une notamment, est le retour de l'ISF, cette fois-ci incluant l'outil de travail. Ça veut dire qu'en fait, tu crées ta boîte grossit, t'es taxé, comme t'as pas de quoi payer parce que c'est pas du capital liquide, tu vends ta boîte.
Ouais, ou la fin de la flat tax, c'est quelque chose qui est pas mal évoqué. Enfin bref, il y a pas mal quelques mesures. Alors la fin du CIR aussi, il y a plein de petites mesures qui traînent dans l'air depuis longtemps et dont on voit mal comment elles ne seront pas mises en œuvre dans le PLF 25, au sens où de toute façon il va falloir trouver des économies rapidement.
J'ai fait le pari, hein, Robin, que pour la première fois depuis de nombreuses années, il allait se passer un truc sur le CIR dans le PLF 2025. Je suis quasiment sûr. Alexandra Roulet, on en parlait juste avant l'émission. On voit bien qu'il y a des gens qui croient encore à des solutions comme le blocage des prix, comme le fait d'augmenter le SMIC de 2 points, enfin à 2 chiffres, ou encore avancer l'âge de départ à la retraite, ou ressusciter l'ISF. Évidemment, quand on écoute les réactions des chefs d'entreprise, de ce que vient de dire Robin Rivaton, c'est pas une solution pro-business. Mais à côté de ça, on peut pas complètement être sourd aux gens qui sont séduits par des mesures qui iraient jusqu'à des mesures fiscales. Il va falloir trouver un truc qui tienne la route, quoi.
Tout à fait. Je pense que on a beaucoup dit, beaucoup d'économistes soutiennent le programme du Nouveau Front Populaire, etc. Je pense que la vérité est un peu plus complexe que ça. Il y a dans le programme du Nouveau Front Populaire des mesures qui sont objectivement assez absurdes. Par exemple, même dans les petits détails, revaloriser les allocations logement de 10%, on sait bien que ça va profiter en fait aux propriétaires qui vont augmenter les prix. Donc, j'ai du mal à penser que beaucoup d'économistes soutiennent véritablement, mesure par mesure, tout ce qui est dans ce programme. Et d'ailleurs, dans le manifeste de soutien, il est très clairement écrit, ce manifeste ne vaut pas blanc-seing. Et je pense que cette phrase est assez importante. Simplement, pourquoi des économistes ont soutenu ce programme et pourquoi des Français ont quand même voté massivement pour le nouveau Front populaire, c'est qu'il y avait, il y a un esprit, c'est-à-dire qu'au-delà des mesures, du détail des mesures, dont certaines sont franchement un peu absurdes, comme indexer tous les salaires sur les prix ou bloquer les prix, il y a l'idée qu'il faut davantage partager les gains de prospérité qui sont, qu'on a en France, qu'il faut peut-être davantage redistribuer, qu'il faut prendre en compte les classes populaires et les classes moyennes inférieures qui ont l'impression d'être déclassées. Et donc cet esprit-là,
c'est parfois pas qu'une impression. Hein,
exactement. Et donc cet esprit-là, je pense qu'il faut il faut l'entendre.
Il faudra l'introduire d'une manière ou d'une autre, peu importe la couleur définitive de cette composition qui s'installe là.
Je pense parce que c'est important, y compris. Alors Robin Rivaton avait tout à fait raison de rappeler que la politique de l'offre a produit des effets économiques positifs. On a tendance à l'oublier parce que dans le débat politique,
nier parfois.
Voilà, le bilan économique devient totalement inaudible. Mais il est vrai qu'on a créé beaucoup d'emplois. Il est vrai qu'on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, alors que c'était l'inverse avant. Donc tout ça, la France est redevenue un pays attractif, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut dire et redire. Mais on peut pas s'arrêter là. Il faut aussi dire que cette politique économique, malgré ses bons résultats, elle ne rassemble plus. Elle ne rassemble plus une majorité.
C'est très 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 vrai. Oui, c'est un vrai sujet là. On pourrait faire réagir tout le monde là-dessus, Mathieu, parce que on voit bien que l'objectif de la cuisine, j'appelle ça la cuisine, hein, ce qui se passe actuellement au Parlement, ça va être d'essayer au maximum de réunir, de considérer qu'ensemble c'est du centre droit et d'aller chercher du LR, voilà, pour dire finalement au NFP, ben regardez, finalement c'est nous la majorité, et on peut pas être sourd. Alors, elle a complètement raison, Alexandra. Et pourtant, on a un système de redistribution monétaire qui est l'un des plus efficaces du monde. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut aligner des quantités de chiffres qui sont rassurants, qui sont des chiffres globaux de macroéco, qui peuvent nous faire considérer qu'on va dans la bonne direction. Eh bien, ça ne rassemble pas.
Oui.
Il
va falloir trouver un moyen, parce qu'effectivement, il y a une déconnexion entre effectivement ces résultats plutôt positifs sur les mêmes chiffres macro, même sur le pouvoir d'achat, d'ailleurs. Qui est loin de décliner par rapport à d'autres pays.
Ce que vous venez de dire, je vais avoir des réactions.
Les chiffres macro donnent des tendances, mais ça donne pas l'hétérogénéité, en fait. Et d'ailleurs, on sort d'un choc inflationniste très particulier, en particulier sur l'énergie et l'alimentaire, où on a vu qu'il y a effectivement une moyenne globalement qui stabilise, mais que les revenus du travail, en tout cas les salaires, ne sont pas la composante qui crée la dynamique principale dans la hausse du pouvoir d'achat aujourd'hui. Et que pour certains salariés qui sont juste au-dessus du SMIC, qui ont pris de plein fouet le choc inflationniste parce qu'ils sont périurbains, parce qu'ils sont en zone rurale, parce que c'est des ménages du bas de la classe moyenne, mais qui n'ont qu'une garantie de hausse de leurs revenus et de leur salaire parce qu'il n'est pas indexé, alors oui, forcément, le choc sur le pouvoir d'achat est très fort et très négatif. Et donc, il y a effectivement cette colère-là. Il y a le sentiment qu'effectivement, il y a une politique économique qui a des résultats, mais qui a été beaucoup axée sur les entreprises et le capital, très clairement, hein, et c'était un choix qui a été fait depuis François Hollande, mais que malgré un système, et c'est là où ça coince, c'est que malgré un système de redistribution fort, on voit qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat des inégalités reste prégnante dans ce pays-là. Donc comment y répondre? Effectivement, le problème, c'est que le programme du Nouveau Front Populaire est plus ou moins le programme de la LFI.
Parce qu'en
réalité, ça a été fait en 3 semaines, et donc ça a été fait là-dessus.
En 2 heures, même.
En 2 heures, mais qui a été repris de ce qui avait été construit en réalité autour d'un programme de la LFI qui est très marqué sur des mesures fiscales extrêmement fortes, sur le SMIC, sur une très forte redistribution, les services publics, très peu de cadrage budgétaire, etc. Donc ça pose la question de comment ce programme va évoluer, en fait. Parce qu'il ne passera jamais, honnêtement. C'est impossible. Bien sûr. Donc, mais quelles sont les mesures qui vont rester à la fin, en fait, si vous voulez pas qu'il y ait des motions de censure. Donc moi, je comprends aussi un peu tout le monde. Je comprends l'attente des Français parce qu'il y a des mesures chocs et très fortes qui ont été annoncées. Et puis je comprends l'inquiétude des entreprises de l'autre côté, parce qu'on ne sait pas où on va. À quelle sauce elles vont être mangées. Est-ce que finalement, ça sera juste le statu quo, mais ça crée aussi l'incertitude, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Qu'on est quand même sous une procédure de déficit excessif. Ouais, donc on gagne du temps. La bonne nouvelle, c'est que le RN est très loin de la majorité. Et que ça, c'est les marchés, je pense.
La peine de parler du programme du RN.
Voilà. Donc là, et que du coup, on est quand même quelque chose sur des axes qui, j'allais dire, sont quand même
plus ancré historiquement sur des gens qui ont une habitude de gouverner, en tout cas une partie quand même de la gauche, qui sont pas totalement anti-européens. Donc, voyez, il peut se faire des choses. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, c'est quand même assez difficile de se dire où va la France. Jamais, j'allais dire, il y a eu un tel éclatement politique. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à avoir une majorité qui se dégage, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, comme le disait Alexandra Roulet, effectivement, on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé, on ne peut pas considérer qu'on peut complètement rester sourd. Ben, si on additionne les quelques presque 10 millions de votes RN ou 7,5 millions de votes NFP, ça fait du monde quand même.
Ah oui, ça fait
on
ne
peut pas considérer que les faits sont là, les résultats de la politique de l'offre sont là. Oui. Alors, il faut les entendre, il faut peut-être redistribuer davantage. Emmanuel Auriol, du Cercle des économistes, professeur à l'École d'économie de Toulouse, a pas mâché ses mots quand elle était à Aix avec moi. Elle a dit, j'entends tout ça, mais est-ce que les Français comprennent à quel point ils sont dans un pays relativement gâté aussi ? Vous voyez, c'est courageux de dire un truc comme ça aujourd'hui. Hein. C'est pas tellement l'ambiance du moment.
Mais oui, je pense qu'il y a eu aussi une fracture politique assez forte, y compris au sein du gouvernement, avec la réforme des retraites, typiquement.
Ah ben là, c'est...
Je pense que... Forcément, on a un conseil d'orientation du corps qui donne quand même des informations assez claires sur le besoin de financement. La question, c'est quelle modalité on doit mettre en place pour ce financement. C'est clair, revenir à la retraite à 60 ans n'a pas de sens aujourd'hui quand on voit les besoins de financement structurels qu'il y a sur les questions de vieillissement. Mais par contre, le passage en force sur une telle réforme, sans négociation, sans ouvrir la porte à des négociations, y compris sur des mesures de cotisation, des mesures d'âge, je sais pas, enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être discutées sur les évolutions des pensions, pose un problème de dialogue social quand même. Je pense que ça fait partie de la colère, et que donc, il y a un moment donné, il y a besoin de réouvrir un dialogue, quoi.
Robin Rivaton.
Deux choses. D'une part, on voit quand même que le scénario du corps était déjà trop optimiste. Hein. On voit que les prévisions actuelles sont... La réforme ne suffira pas à remettre le régime des retraites à l'équilibre dès cette année. Je vais vous dire autre chose, c'est qu'il y a déjà eu un coup de canif qui a été porté à la politique de l'offre le 1er juillet, quand le Premier ministre Gabriel Attal a refusé de publier le décret de réforme de l'assurance chômage. On a aujourd'hui une UNEDIC qui est en train de plonger dans les comptes, sont en train de plonger. Vous parlez aux administrateurs de l'UNEDIC et avec un marché du travail qui est en train de se retourner. C'est un système d'assurance chômage qui va plonger dans le rouge très fortement. On a mis un premier coup de canif et il n'a pas été porté ni par la NFP ni par l'ERN, il a été porté par l'actuelle majorité qui avait porté les coups politiques de cette réforme. C'est-à-dire que c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est de la démagogie à 100%. C'est-à-dire que vous avez porté les coups politiques de la réforme, de cette mesure-là, et vous le changez 3 jours avant le scrutin. Ça n'a aucun sens d'un point de vue.
Je lis juste, et d'ailleurs ça vous concerne Alexandra, mais je vous laisserai réagir à ce que vient de dire Romain. Arnaud qui m'écrit, le jugement de votre invité concernant la hausse des appels est un peu rapide. Il va de soi que cette hausse sera accompagnée par un blocage des loyers dans les zones tendues, m'écrit-il. Bon, vous vouliez réagir à ce que disait Romain Rivaton.
Oui, je voulais réagir sur l'assurance chômage, parce que moi j'étais très en soutien, j'y ai même contribué, je travaillais à l'époque au cabinet d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron à la réforme de l'an dernier, qu'on a réduit la durée
à la précédente.
On a réduit la durée d'indemnisation, on a rendu l'assurance chômage contracyclique. Autant, je pense que la réforme de cette année était beaucoup plus discutable. Alors on pourrait dire, vous avez changé d'avis en un an ? Pas du tout. Je considère qu'elle était plus discutable pour deux raisons. D'une part, elle était plus contracyclique, puisque ça venait réduire la générosité.
C'est vrai que ça se discute là.
En phase basse de cycle économique. Et d'autre part, comme on avait déjà fait deux réformes, quelque part, et ça revient sur le sujet de répartition de l'effort et de demande de justice sociale, on avait envie de dire, les chômeurs, ils ont déjà contribué à l'effort en partie budgétaire et l'effort vers le plein emploi, puisqu'il y a déjà eu deux précédentes réformes qui, encore une fois, je pense, étaient tout à fait justifiées du fait de notre système et de notre taux de chômage. Autant celle-là, elle me paraissait pas justifiée. Et je pense que pour une économiste qui pourtant est une économiste du centre en faveur du plein emploi, etc. Donc je...
Pas justifiée à cause du moment ou à cause des
mesures ? À cause du moment et à cause du fait qu'il y en avait déjà eu deux. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, quand on durcit l'assurance chômage, il y a toujours deux effets. On va renforcer les incitations à l'emploi, c'est pour ça qu'on fait le durcissement. Mais d'un autre côté, il y a des gens pour qui, même si on renforce les incitations, ils ne vont pas trouver d'emploi.
Oui.
Et donc ces gens-là, on vient quand même les précariser, ça il faut le dire. Et donc l'idée, c'est de trouver un équilibre.
Ça ne l'a jamais d'ailleurs nié.
Oui, voilà. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Et donc, la première réforme, on fait la première réforme. La deuxième réforme, voilà, je pense qu'on est toujours en quelque sorte du bon côté de l'équilibre où le renforcement des incitations se justifie par rapport aux éventuels effets pauvreté qu'on peut créer. Mais là, je pense qu'on est arrivé dans une zone où on allait avoir plus d'effets pauvreté que d'effets retour à l'emploi, si vous voulez. C'est mon jugement. Ouais. Mais
une troisième après.
Terminé, Alexandra, et puis.
Et donc, je pense que Gabriel Attal a bien fait de suspendre ce décret, parce que clairement, c'était aussi une façon d'entendre le vote de la veille.
C'était voilà. Un choix politique.
Mais
là, hein.
Voilà. Mais je pense que vous parliez du 1er août. Je pense que cette réforme, il faut l'enterrer. C'est au moins une façon de dire. Si on réfléchit à voix haute à comment justement prendre en compte le vote des Français sans nécessairement remettre en cause la politique de l'offre, c'est une des façons. C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qu'on pourrait faire, que ce soit pour le plein emploi? Et je pense que oui. Des mesures sur le marché du logement, des mesures qui viendraient bien sûr fluidifier.
Il faudrait s'y mettre un jour sur le logement.
Et ça aurait des répercussions sur le marché du travail. Tout n'est pas question d'incitation, si vous voulez. Ouais. C'est pas vrai. Donc, il faut trouver un juste équilibre et donc avoir un éventail de mesures plus diversifié.
Sur la politique de l'emploi et le plein emploi, vous mettez le logement en tête parmi les éléments sur lesquels il faudrait intervenir, qui ne sont pas des éléments justement d'État-providence. Mais
je pense que le logement est un... Oui, je pense qu'il faut maintenant travailler en oblique, c'est-à-dire fluidifier d'autres marchés pour avoir des répercussions positives sur le marché du travail. Je pense aussi, sur le plein emploi, ce qu'on a trop peu dit, c'est que les réformes qui ont été décidées, notamment au tout début de deuxième quinquennat, elles montent en charge graduellement. C'est-à-dire que la réforme des retraites, elle est très loin d'être pleinement montée en charge. La réforme de l'assurance chômage de l'année dernière, de 2023,
n'a pas encore produit tout ça,
elle s'applique au flux. C'est-à-dire que la plupart des demandeurs d'emploi ne sont pas assujettis à ces règles. C'est que les gens qui ont ouvert un droit à l'assurance chômage après le 1er février 2023. Donc je ne sais pas, ça concerne peut-être 10% des demandeurs d'emploi. Enfin, le chiffre, je ne le sais pas, mais c'est le flux. Et donc, ce qui se passe, c'est que le plein effet de ces réformes, on le verra dans 3 ans. Donc c'est trop tôt pour dire, ah là là, le chômage n'a pas encore suffisamment baissé, faisons plus. Non, attendons que ces réformes montent en charge. La réforme de France Travail, c'est pareil, elle monte en charge graduellement.
Voilà, on ne se permettra pas de faire un bilan de France Travail 6 mois après,
non.
Heureusement
voilà.
Quand même.
Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas se dire le taux de chômage n'a pas encore suffisamment baissé. Il est à ce niveau-là parce qu'il y a eu une politique monétaire restrictive et que les réformes ne sont pas pleinement montées en charge. Attendons.
Il y a Louis qui m'écrit, les Français n'ont pas voté pour le NFP, ils ont voté contre le RN. Oui, certains sans doute, c'est vrai, mais enfin
c'est
bon,
vrai.
Après on en est. Vous voulez réagir, donc à ce que je disais, Alexandre Roulet.
Il y a trois lunettes d'analyse des réformes. Il y a effectivement la recherche du
plein emploi,
il y a l'effet pauvreté, et il y a l'équilibre des comptes de l'assurance chômage. Je veux dire, aujourd'hui, l'équilibre des comptes des administrations publiques en général, l'assurance chômage.
Mais il est excédentaire.
Il y a une dette monstrueuse. Non, mais en
plus, elle est à 55
milliards. La dette, elle est aussi liée au chômage partiel et des choses comme ça.
Elle est à 55
milliards. Elle est liée au chômage intermittent, elle est liée à plein de choses.
Aujourd'hui, non, mais c'est une autre question. Mais si on regarde pas la dette, mais effectivement le flux, c'est-à-dire le solde, il y a un excédent du côté du régime de l'assurance chômage.
C'est pas là où il y a le plus.
Sur le côté des retraites, c'est plus problématique que sur l'assurance chômage.
C'est quand même ce qui va nous ramener un peu sur terre. C'est qu'aujourd'hui, on a eu les chiffres du déficit public des administrations publiques au 31 mai 2024. On est sur une trajectoire qui est pire que l'année dernière. Alors, en valeur absolue, mais on est sur une trajectoire où on est censé avoir coupé des dispositifs de soutien à l'économie et on ne comprend pas pourquoi les comptes publics présentent une situation aussi dégradée. Et ça va être quand même là le juge de paix de septembre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des envies de justice sociale, on peut avoir des envies de politique de l'offre. Quelque part, la réalité qui va nous ramener tout ça et qui va être le juge de paix, ce sera quand même le fait de savoir est-ce qu'on peut présenter un budget qui ne reprend pas encore 5 points de déficit par an. Est-ce qu'on réduit les 3,2% de déficit structurel de ce pays?
Mais quand vous dites que fin mai, on est dans une situation plus dégradée qu'il y a un an, tandis qu'on a effectivement quasi tout débranché, il reste un petit peu de droit d'assise encore sur l'électricité qu'on va remettre, mais et on est censé avoir par décret indiqué 10 milliards d'économies fin mai ou début février, en avoir ajouté 10 autres qui ne sont pas renseignés. Donc ça veut dire que on a la corde au cou et on ne sait même pas expliquer qui a fait le nœud et pourquoi il se sert. C'est un peu ça l'histoire.
Les spécialistes des finances publiques se posent la question.
Il vient quand François Eckhall? Je vais le cuisiner, moi.
Et surtout, ce que vous regardez quand les chiffres du premier trimestre sur le terrain, la croissance, elle est tirée par la consommation publique et l'investissement public.
Conso public
et investissement public.
Qu'est-ce qu'on met dans conso public?
C'est tout ce qui est dépenses d'éducation et santé. Notamment, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas du tout un secteur qui est en consolidation, en tout cas quand on le voit d'un point de vue comptable, comme ça. Et c'est vrai que la marge d'escalier, on le voyait déjà de passer de 5,5 qui n'était pas une bonne nouvelle par rapport aux 4,9 annoncés, en dessous des 3, nécessitait un régime d'amaigrissement ou en tout cas de réduction des déficits structurels extrêmement importants, voire peut-être un peu trop violents.
Ouais, mais c'est...
Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu hors sol par rapport à ça.
Il y a certaines théories qui disent que ce qui a poussé Emmanuel Macron à dissoudre, c'est pour éviter l'obstacle, en fait. C'est tellement énorme, les économies qu'il faut faire d'ici 2027, que je vais les filer à quelqu'un d'autre.
Quoi. Ouais, mais alors l'obstacle, je sais pas qui va le prendre.
Oui, non, là... Bon, non, c'était passionnant de vous écouter, notamment sur la réforme de l'assurance chômage, parce que je rappelle que c'est donc un décret de jointure, juste. Il y a un décret purement technique pour que le système continue à fonctionner avec les règles actuelles. Et c'est vrai que 1er août, il n'a pas été très clair, hein, Gabriel Attal, quand je lui ai posé la question. Bon, quand il était là, il ne savait pas trop lui-même où il était 3 jours après. C'est pas non plus super simple. Oui, il faut entendre ce qu'ont dit les gens, mais pas faire n'importe quoi. Alors tiens, j'ai 2-3 idées à vous soumettre juste après. Parce qu'il y a, un moment, hein, la tambouille, la cuisine, je te donne ça, tu me donnes ça, ok pour ça, mais alors on ne le fait pas vraiment comme tu as dit, on le fait comme ça. Enfin, ça va être un peu ça, hein, dans la vraie vie. On pourra dire un mot des réactions, de la non-réaction de marché, mais justement, Mathieu, on reviendra sur le juge de paix, c'est le budget. Hein. Mmh. S&P nous a dit hier, bon, je vous fiche la paix, mais on se revoit en octobre. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.